VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manelakis avec vous, 13h à Washington, d'ici les 17h à Abidjan, 18h à Kinshasa. Bienvenue dans notre journal d'information. D'abord l'Afrique, les traces d'un nouveau cousin de l'homme, l'Homo naledi. Une ancienne espèce humaine, jusqu'alors inconnue, a été mise au jour dans une grotte d'Afrique du Sud. Des ossements de 15 hominidés ont été exhumés. Une découverte remarquable qui souligne la complexité de l'évolution humaine, ont annoncé aujourd'hui des chercheurs internationaux. Alain Froment, anthropologue, directeur de recherche au Musée de l'Homme, décrit l'espèce humaine découverte près de Johannesburg en Afrique du Sud.
C'est un petit hominidé, hein. Il fait un peu moins d'1m50, peut-être 45 kilos. Il a un cerveau tout petit, à peine plus gros que celui d'un chimpanzé, mais il se déplace très bien. Il a un pied très moderne et des mains qui sont capables d'une grande agilité, donc de tailler des outils. Il est donc certainement sur le rameau qui conduit aux hommes actuels, mais on n'a pas trouvé d'outils dans la grotte où il a été découvert, donc pour le moment on ne peut raisonner que sur son anatomie.
Quel âge a-t-il, cet Homo naledi ?
Grande question, les auteurs n'ont pas été capables de donner l'âge parce que en fait c'est une découverte presque de surface, et c'est ça qui est d'ailleurs extraordinaire. C'est au fond d'une grotte qui est très peu accessible. Et tout se passe comme si la quinzaine d'individus qui ont été retrouvés avaient été déposés là volontairement. Donc même si l'âge est estimé à au moins 2 millions d'années ou peut-être 3, sans qu'il y ait d'arguments géologiques pour le moment, en tout cas pour des hominidés aussi archaïques, c'est très étonnant et très nouveau. C'est la première fois pour une époque aussi ancienne où on voit un souci de mettre le mort quelque part.
Alain Froment au micro d'Anastasie. Et en page sécurité, la Centrafrique d'abord. Plusieurs grenades ont explosé dans le 6e arrondissement de Bangui. 2 personnes ont été tuées et 22 autres blessées. Le pays doit en principe tenir un référendum à une présidentielle le mois prochain. Et au Darfour, des hommes armés ont tué par balle 2 fonctionnaires soudanais et se sont emparés de leur véhicule qui transportait des responsables de l'OMS et du ministère de la Santé. L'équipe menait une enquête sur la présence du ver de Guinée au Soudan. Et en page politique, en Côte d'Ivoire, la liste définitive des candidats à la présidentielle du 25 octobre a été annoncée hier par le Conseil constitutionnel. Sur les 33 personnes qui avaient déposé un dossier, 10 ont été retenues, dont le président sortant Alassane Ouattara, donné largement favori. En Guinée, la campagne pour la présidentielle du 11 octobre s'est ouverte aujourd'hui. 8 candidats sont en liste, dont le président Alpha Condé et Selou Dalène Diallo, chef de l'opposition. La campagne se termine le samedi 10 octobre à minuit au Mali. Les élections locales sont prévues pour le 25 octobre. Les rebelles de coordination des mouvements de l'Azawad interdisent toute mobilisation ou campagne concernant ces municipales sur toute l'étendue de l'Azawad. Et dans la page justice, au Sénégal, le procès d'Hissène Habré se poursuit devant les chambres africaines extraordinaires. L'ex-président tchadien devait être entendu pour la première fois, mais a décidé de s'enfermer dans le silence. En RDC, verdict attendu dans le procès de 4 activistes du mouvement citoyen Lutte pour le changement d'Outcha, accusés d'incitation à la désobéissance et contre qui le ministère public a requis 3 ans de prison ferme. Et le pape François effectuera en novembre sa première visite sur le continent africain. Il sera du 25 au 27 novembre au Kenya, du 27 au 29 en Ouganda, puis en Centrafrique les 29 et 30 novembre. Et le Cameroun accepte de débloquer 12 millions de dollars, soit 6 milliards de francs CFA, pour calmer les militaires grévistes. 200 d'entre eux, qui étaient en mission pour le rétablissement de la paix en Centrafrique, ont bloqué la circulation en manifestant devant l'Assemblée nationale du Cameroun pour réclamer le paiement de leurs primes par l'Union africaine. Suivez.
Le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, est allé à la rencontre des militaires concernés par la revendication de ce jour pour leur annoncer la décision prise par le chef de l'État de faire procéder au paiement immédiat et par anticipation sur la régularisation à venir de l'Union africaine des arriérés des primes réclamées à hauteur d'environ 6 milliards de francs CFA. À l'annonce de cette information, les militaires concernés sont immédiatement rentrés dans les rangs et ont exprimé leur profonde gratitude au président de la République, son Excellence Monsieur Paul Biya.
Et le Kenya a signé un accord avec la Chine dans le cadre du projet de ce pays d'Afrique de l'Est de se doter d'une centrale nucléaire pour produire de l'électricité d'ici à 2025. L'annonce a été faite aujourd'hui par l'organisme chargé de la production électrique à partir de centrales nucléaires, le Kenyan Nuclear Electricity Board. Le Kenya espère lancer sa première centrale nucléaire avec une capacité de 1000 MW à l'horizon 2025, a annoncé le KNB, avec l'ambition de porter cette capacité à 4000 MW d'ici à 2033 et de faire de l'électricité nucléaire une composante fondamentale de la production d'énergie du pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ailleurs dans le monde, jour historique pour les Palestiniens, le drapeau du pays d'Arafat va flotter fièrement pour la première fois au siège des Nations Unies à New York. L'ONU va l'autoriser aujourd'hui. Il s'agit d'une nouvelle étape dans l'intense campagne diplomatique palestinienne pour faire reconnaître leur État. Et au Japon, la ville de Jozo, située à 60 km au nord de la capitale Tokyo, est menacée par des inondations. Plus de 100 000 personnes ont reçu l'ordre en différents endroits de quitter leur domicile dans cette agglomération de 65 000 habitants. La rivière Kinugawa, en furie, a brusquement envahi la ville et a lâché une gigantesque vague boueuse après des pluies diluviennes qui ont inondé une partie du pays et font craindre plusieurs décès. Et la vague de migrants qui marchait sur les routes d'Europe continue de grossir avec un nombre record de passages signalés aujourd'hui entre la Serbie et la Hongrie. Mais la frontière pourrait être hermétiquement fermée par l'armée d'ici quelques jours. À propos, les chefs de la diplomatie du groupe de Visegrad, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Hongrie vont rencontrer leurs homologues allemands et luxembourgeois demain vendredi à Prague. C'est pour parler de la crise migratoire annoncée aujourd'hui le ministère tchèque des Affaires étrangères. Et la réunion des ministres va contribuer à une meilleure compréhension mutuelle parmi les membres de l'Union européenne au sujet des différentes positions sur les manières de résoudre la crise migratoire actuelle. Selon le communiqué du ministère, les pays du groupe de Visegrad sont opposés au système de quotas en répartition de migrants proposé par Bruxelles. Et la Russie a démenti aujourd'hui le renforcement de sa présence militaire en Syrie. C'est en réponse aux accusations des États-Unis qui ont annoncé un déploiement récent de matériel de soldats près de Latakia, fief alaouite du président Bachar al-Assad. Toutefois, l'armée du régime syrien est en difficulté à la fois face à Al-Qaïda qui s'est emparée de sa dernière base militaire dans la province d'Idlib dans le nord-ouest et vis-à-vis du groupe État islamique qui menace de s'emparer d'un aéroport stratégique plus à l'est.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Un mot de sport pour clôturer ce journal. Le président de la commission de dite de conformité de la FIFA, Domenico Scala, a détaillé aujourd'hui un plan de réforme en huit points pour notamment limiter à 3 fois 4 ans le mandat du président, une règle qui s'appliquerait également aux membres du comité exécutif. Également président de la commission électorale, M. Scala a déjà présenté ses propositions devant le comité exécutif de la FIFA le 20 juillet et les a explicitées devant la commission des réformes présidée par l'avocat suisse François Carrard. Les principales autres mesures préconisées par M. Scala visent un contrôle renforcé et centralisé de l'intégrité des membres actuels du comité exécutif et des autres responsables de la FIFA, une élection des membres du comité exécutif par le congrès de l'instance. Les 24 membres du comité exécutif sont actuellement désignés par les 6 confédérations. Seul le président de la FIFA est actuellement élu par le congrès. Et c'est ici que nous mettons un point final à ce journal. Le suivant, c'est Le Monde aujourd'hui dans 20 minutes avec Gabi Dorsil. Eric Manilakiza vous prend congé. Restez.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.